13h, le journal de Frédéric Barrère. Bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Jonathan Daval au procès du meurtre de son épouse Alexia. La réclusion à perpétuité sans peine de sûreté. Nous rejoindrons à Vesoul Corinne Audouin. Le vaccin contre le coronavirus, Paris envisage de vacciner plus de 700 000 personnes. Réunion de travail hier soir pour être prêt dès le début de l'année prochaine. Les petits commerçants espèrent ouvrir dès la fin du mois, 4 semaines avant Noël. Des petits commerçants dans l'attente des annonces d'Emmanuel Macron mardi prochain. Un G20 qui fait polémique en Arabie Saoudite. Les 20 plus grandes puissances économiques se retrouvent en visioconférence pour parler du monde post-coronavirus. Des associations souhaitent que la question des droits humains soit abordée lors de ce G20. Invité de ce journal, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty France. Dans ce journal également, le Burkina Faso qui vote demain pour la présidentielle et la prescription culture pour ce week-end signée Stéphane Capron. La météo classique du soleil sur une grande moitié sud du pays, ciel couvert et quelques gouttes de pluie au nord. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition à 13h20. Secret d'info au programme aujourd'hui, Jacques Onin.
Eh bien, un phénomène préoccupant, le trading en ligne que proposent des sociétés douteuses sur Internet. De nombreux jeunes pensent gagner beaucoup d'argent et ils se retrouvent endettés et coupés de leur famille.
Secret d'info, Jacques Onin à 13h20.
France Inter.
Jonathan Daval, bientôt fixé sur son sort, début du dernier acte aujourd'hui de ce procès avec d'abord le réquisitoire de l'avocat général. L'avocat général qui a requis ce matin la réclusion criminelle à perpétuité en direct de la cour d'assises de Vesoul. Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour Frédéric.
Alors l'avocat général a parlé d'un crime particulièrement épouvantable pour un réquisitoire très sévère.
Oui, et pour justifier ces réquisitions très sévères, puisque c'est la peine maximale encourue, Emmanuel Dupic s'adresse aux jurés. Vous allez juger 3 morts, l'agonie d'une femme mariée, la crémation de son corps, et la 3e mort, l'accusation de la famille d'Alexia par Jonathan Daval. Oui, votre décision doit répondre à la souffrance des familles et à la demande de la société. L'avocat général détaille la froideur, la méticulosité de Jonathan Daval, qui met par écrit après le crime le faux récit de sa disparition. C'est presque un crime parfait. Reste la question du mobile. Je crois qu'elle lui a signifié ce jour-là qu'elle voulait le quitter. Et ça, Jonathan Daval ne l'a pas supporté. Je n'ai pas retenu la préméditation, rappelle l'avocat général, mais il y a tellement de zones d'ombre qu'on peut s'interroger. Vous allez juger un meurtre conjugal. Votre décision sur ce crime épouvantable sera regardée par la société. Vous allez donc condamner, a-t-il dit, Jonathan Daval à la perpétuité à cause de ces 3 morts d'Alexia.
Et alors Corinne Audouin, parole ensuite à la défense, bien sûr. Quelle a été la réponse des avocats de l'accusé?
Alors Randall Schwerdorfer se lève depuis le banc de la défense. Il emplit l'espace de sa carrure imposante. Perpétuité, c'est une peine qu'on prononce pour les criminels les plus dangereux. Il égrène les noms Holm, Fourniret, Guy Georges. Je n'ai pas vu Guy Georges dans le box. J'ai vu Jonathan Daval. Une peine ne doit pas être à la hauteur du battage médiatique. C'est un réquisitoire, monsieur l'avocat général, fait pour plaire à l'opinion publique. Il regarde les jurés. On vous demande, vengez Alexia à cause des mensonges. Pour les médias, pour l'opinion, vengez Alexia parce qu'il a trahi ses beaux-parents. Mais rien ne justifie une peine dans tout cela. Vous jugez au nom de la loi, pas de la morale. Jonathan Daval est un criminel et vous allez le condamner. Il ne le conteste pas. Mais vous allez le juger sans haine et sans crainte. La plaidoirie de la défense est toujours en cours, puis les jurés partiront délibérer après les derniers mots de l'accusé.
Merci Corinne Audouin avec Romain Luquien. C'est après la délibération, le verdict sans doute dans la soirée. La lumière d'un vaccin au bout du long tunnel de l'épidémie de coronavirus. Paris se prépare et se met en position de pouvoir vacciner un tiers de sa population, soit plus de 700 000 personnes, dès le début de l'année prochaine. Une réunion de travail par visioconférence est tenue hier soir pour envisager ce scénario optimiste et pour préciser la logistique de la future campagne de vaccination. Véronique Julia.
À la mairie de Paris, on précise bien qu'il ne s'agit que d'un scénario envisagé avec les services de l'État et surtout pas d'une démarche propre à la capitale qui ferait les choses dans son coin. Lors de cette réunion, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy est venu expliquer aux élus les tenants et aboutissants des nouveaux vaccins qui arrivent. Prudence donc, car à ce stade, beaucoup d'inconnus encore sur les caractéristiques de ces vaccins, leur conservation, les stocks dont on disposera à l'instant T. Tout cela est encore un peu flou, mais Paris de fait se met en ordre de bataille. L'adjointe à la santé a donc détaillé ce qui pourrait se faire si les voyants sont au vert fin décembre. Si les premiers vaccins, par exemple, ont à ce moment-là leur autorisation de mise sur le marché, on pourrait commencer dès janvier à vacciner un tiers de la population à Paris. D'abord les plus de 65 ans et les personnels soignants. 5 sites dédiés dans la capitale ont été identifiés et pourraient être utilisés pour ce qui sera évidemment un énorme défi logistique. En attendant, le vaccin ne fait pas tout et Jean-François Delfraissy rappelle la prudence à tenir si on veut éviter une troisième vague. Les Parisiens devraient être associés aux décisions sanitaires aussi via un panel de citoyens qui sera entendu. L'autre énigme de cette campagne étant, on le sait, l'adhésion des Français au vaccin.
Véronique Julia, merci. Et avec le vaccin annoncé, le monde d'après montre un visage dont les contours s'éclaircissent. Les pays frappés par les restrictions se raccrochent à la bouée que représente l'arrivée du vaccin. En France, où le couvre-feu puis le confinement ont permis un recul de l'épidémie, on attend, on espère un allègement des mesures de restriction. Et parmi ceux qui attendent et qui espèrent, il y a les petits commerçants. Pourront-ils rouvrir avant la fin du mois? Emmanuel Macron tranchera et prendra la parole mardi soir à 20h. En attendant, un nouveau protocole sanitaire a été mis sur pied par le ministère de l'Économie. La principale mesure est l'instauration d'une jauge, une personne pour 8 mètres carrés de surface, y compris dans les hypermarchés. Les commerçants sont prêts à le faire. Reportage à Aix-les-Bains, Tommy Cataneo.
Du moment qu'ils peuvent ouvrir,
ça ne pose aucun problème.
Christine tient un magasin de chaussures pour enfants dans le centre-ville d'Aix-les-Bains. Et même si elle pourrait, selon le nouveau protocole, accueillir 5 personnes dans sa boutique, eh bien elle fera comme elle faisait déjà juste après le premier confinement.
J'acceptais des clients, je prenais par fratrie. Je prenais la même famille qui rentrait à l'intérieur du magasin. Nous avions les masques et il y avait un nettoyage de chaque siège qui était fait à la sortie, une fois l'achat terminé.
Sans oublier le gel hydroalcoolique. Bref, le message est clair, on sait faire et on fera tout ce que le gouvernement nous demande, explique Florian Louveau. Il est opticien et président de l'association des commerçants d'Aix-les-Bains.
Que ça soit 4 mètres carrés ou 8 mètres carrés, on fera avec et les endroits où il faut s'adapter, on s'adaptera. Et y a pas de... On préfère être un peu ouvert avec un peu plus de mesures. Pour pas qu'on se referme trop rapidement.
Pour beaucoup de commerçants, la période des fêtes représente leur dernière chance de faire entrer un peu de chiffre d'affaires dans une année 2020 qui sera de toute façon à oublier.
Tommy Cataneo de France Bleu, Pays de Savoie. À l'Assemblée nationale, les garde-fous ne suffisent pas à éteindre la polémique autour de la proposition de loi sécurité globale et de son article 24. Cette mesure pénalisant la diffusion malveillante de l'image des forces de l'ordre avec des garanties du gouvernement sur le droit d'informer a été votée hier soir par les députés, mais la controverse n'est pas terminée et la fronde continue au Parlement et dans la rue. Plusieurs manifestations aujourd'hui en France, à Paris, manifestations près du Trocadéro à l'appel des syndicats de journalistes, de sociétés de rédacteurs et d'associations comme la Ligue des droits de l'homme. Clémentine Autain, députée de la France insoumise, a dénoncé ce matin cette proposition de loi.
Dans la loi actuelle, et c'est pas simplement moi qui le dis, hein, c'est Claire Hédon, la défenseure des droits, il existe de quoi protéger les policiers. D'ores et déjà, vous avez par exemple un article qui est le 226-1 qui stipule dans le code pénal qu'on sanctionne le fait de porter atteinte à l'intimité de la vie privée. Et à chaque fois quand c'est les policiers, vous avez des circonstances.
Donc c'est de l'affichage, cette
aggravante.
Proposition de loi ne sert
donc
à rien.
Je ne comprends pas cette proposition de loi. Elle vise en réalité à intimider celles et ceux qui voudraient filmer, et à donner davantage de pouvoir aux policiers. Et j'insiste sur un point, il n'y a pas que l'article 24 dans cette loi qui pose problème. Je pense aux drones. Hein. On a quand même une autorisation maintenant très large d'utilisation des drones. C'est inédit. Ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir une collecte massive d'individus qui vont être reconnus par les images, avec zéro garantie sur la vie privée. Je pense que cette loi est une véritable attaque par rapport à l'équilibre qui doit exister entre les policiers et les citoyens. Là, aujourd'hui, on a totalement déséquilibré.
Clémentine Autain avec Jules Dequisse. Mobilisation également en ligne contre les violences sexistes et sexuelles cet après-midi à l'appel du collectif Nous Toutes. Il faut que ce sujet des violences soit considéré comme une priorité par le gouvernement. Expliqué ce matin sur France Inter, Caroline Dehas, l'une des fondatrices de Nous Toutes. Et je vous signale sur franceinter.fr un article de la rédaction numérique sur les 6 choses à faire pour se mobiliser contre les violences faites aux femmes malgré le confinement. franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Un sommet du G20 en visio, sans cérémonie d'ouverture ni séance photo en raison de l'épidémie de coronavirus. Ce G20, présidé par l'Arabie Saoudite, sera réduit cette année à de brèves sessions en ligne avec des discours de chefs d'État ou de gouvernement. À l'ordre du jour de ce G20, le monde post-pandémie avec les vaccins et l'aide pour les pays à faible revenu. Ce G20 devait être une belle vitrine pour l'Arabie Saoudite et le prince Mohamed Ben Salman. Ce ne sera pas le cas avec, en toile de fond, l'ombre des atteintes aux droits humains. Le sommet débute cet après-midi en direct de Beyrouth. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et alors ce sommet va débuter autour de la question du financement des vaccins contre le coronavirus.
Oui Frédéric, le lancement officiel est imminent. Ce sera avec un survol de Riyad par une patrouille acrobatique. C'est le seul événement réel puisque tout le reste est virtuel, vous le disiez. Alors à suivre ensuite cet après-midi via Internet, l'ouverture du sommet avec les autorités saoudiennes, le roi Salman, les interventions des chefs d'État et de gouvernement des 20 pays membres, notamment Donald Trump, dont ce sera a priori la dernière apparition internationale comme président américain. Sur le fond, vous le disiez, la pandémie s'est imposée comme le thème majeur de ce G20, avec d'abord la question de l'accès aux vaccins, aux tests et aux traitements. L'OMS, l'ONU, l'Union européenne et l'Afrique du Sud réclament 4,5 milliards de dollars au G20 pour financer l'industrialisation, l'acheminement, la fourniture de vaccins aux pays en développement. L'Union européenne doit aussi proposer un nouveau traité international pour renforcer la coopération lors de futures pandémies. Et puis les dirigeants du G20 vont se pencher aussi sur l'après-Covid, la relance de l'économie mondiale en récession. Et ça passe notamment par le soutien aux pays les plus vulnérables. Le moratoire sur le service de la dette des pays en développement qui a été mis en place en avril dernier doit être reconduit pour 6 mois. Ce n'est pas assez selon l'ONU qui demande au moins jusqu'à la fin 2021.
Aurélien Colli, correspondant de France Inter au Liban, merci. Invité de ce journal, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty France. Bonjour Cécile Coudriou.
Bonjour.
Alors ce G20 qui regroupe les 20 principales puissances économiques fait polémique, notamment pour vous à Amnesty. L'Arabie Saoudite est loin d'être un modèle de respect des droits de l'homme. Est-ce que cela vous heurte que ce sommet soit présidé par Riyad et l'Arabie Saoudite ?
Effectivement, il y a une énorme ironie dans le fait que le prince héritier Mohamed Ben Salman, mais derrière lui l'Arabie Saoudite en général, cherche à donner une image extrêmement flatteuse des réformes qu'il prétend mettre en œuvre. Et donc c'est véritablement à travers ce plan Vision 2030 une opération de communication. Mais nous n'en sommes absolument pas dupes et c'est pourquoi nous appelons à une vaste mobilisation en faveur des personnes qui, elles, subissent au quotidien des violations terribles des droits humains, avec un focus particulier sur les femmes qui ont défendu notamment le droit de conduire et qui pour cela sont toujours derrière les barreaux.
Alors vous nous alertez dans ce plan de vision 2030, il manque effectivement ce chapitre des droits humains, et vous nous alertez sur un cas particulier, celui de Loujain Al-Atloul, qui est en prison depuis plus de 2 ans, elle est en grève de la faim depuis bientôt 1 mois, on lui reproche d'avoir conduit une voiture. Dans quelles conditions de détention est-elle retenue, oubliée au fond des geôles saoudiennes ?
En effet, le cas de Loujain est absolument emblématique de la façon dont les femmes sont traitées lorsqu'elles osent braver cet interdit de conduire, mais également remettre en cause le système de tutelle masculine lui-même. Et quelle ironie quand on sait que l'une des réformes affichées par MBS, comme on l'appelle, c'est-à-dire Mohamed Ben Salman, est justement d'autoriser enfin les femmes à conduire, mais tout en laissant dans le même temps, non seulement Loujain, mais également d'autres femmes comme Nassima Al-Sada, Samar Badawi, elle-même la sœur d'un célèbre blogueur qui a été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet, toujours pour une seule chose, c'est-à-dire demander en fait des réformes tout à fait légitimes et de manière pacifique de surcroît.
Mais comment expliquez-vous Amnesty France et que MBS, donc Mohamed Ben Salman, lance ces réformes, mais d'un autre côté, il emprisonne les gens qui portent les réformes, qui sont en avant sur ces réformes.
C'est là qu'on voit toute l'hypocrisie, en fait. C'est vraiment une manœuvre de communication, car il sait très bien qu'il doit diversifier dans son économie qui repose énormément sur le pétrole, donc il y a des intérêts économique majeur, mais également des intérêts stratégiques. Et c'est pourquoi nous appelons le président Macron, non seulement à ne pas être dupe, ce qui n'est certainement pas, mais plus important encore, de manifester à travers la voix de la France, de manière extrêmement forte et publique, sa désapprobation d'un tel contraste véritablement insupportable entre cette campagne de communication et la réalité du bilan des droits humains. C'est pourquoi nous avons nous-mêmes lancé une campagne de communication où on voit d'un côté la belle vitrine, la belle carte postale de l'Arabie Saoudite, mais de l'autre, derrière des barreaux, des personnes qui n'ont rien fait d'autre que de défendre les droits humains.
C'est ça, vous montrer l'envers du décor de ce royaume.
Exactement. C'est vraiment un envers du décor, car ces réformes sont de toute évidence instrumentalisées pour donner une image de modernité et d'évolution au sein de ce pays, encore une fois pour des raisons économiques. Et ce que nous craignons, c'est qu'effectivement, non seulement la France, mais d'autres pays durant ce G20, ne saisissent pas une opportunité absolument essentielle pour mettre en lumière ce que l'Arabie saoudite cherche à cacher, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé de stratégie dans le domaine des droits humains, qu'au contraire, les libertés fondamentales sont toujours violées au quotidien, et que pour en revenir à Loujain notamment, elle a été également victime de violences sexuelles, elle a été victime de tortures, et qu'on l'a voulu monnayer sa libération au niveau des autorités saoudiennes en lui faisant faire une vidéo dans laquelle elle nierait avoir été victime de mauvais traitements. Donc on voit à quel point il y a une forme de cynisme éhonté et à quel point il est essentiel que tous les citoyens du monde signe les pétitions qu'Amnesty International, nous en avons une sur le site actuellement, pour demander à leurs propres dirigeants de faire pression sur l'Arabie saoudite pour que cette hypocrisie, ce contraste insupportable entre la réalité et la vitrine soit vraiment dénoncée et que cette campagne puisse avoir un effet.
Cécile Coudriou, en quelques mots, avez-vous des informations sur les conditions de détention de Loujain Al-Atloul et des autres personnes emprisonnées ?
Nous savons que ce sont des conditions déplorables. Il faut notamment recours à l'isolement, car ça a un impact psychologique très fort. Il y a eu, comme je le disais parfois, même des violences physiques et des menaces ou des sévices sexuels. Donc là, ce n'est pas récemment que nous avons eu ce genre de nouvelles, mais nous savons que ça a déjà eu lieu. Et donc c'est très important de savoir aussi à quel point ce type de sévices, je parlais tout à l'heure de Raif Badawi, le blogueur, lui c'est également une peine de flagellation à laquelle il a été condamné. Grâce à notre campagne, ces flagellations ont cessé, mais depuis 2010, il est toujours en prison. Donc que ce soit ces femmes défenseurs ou toutes les personnes qui osent braver un système qui est totalement insupportable du point de vue des droits humains sont encore persécutées. Et c'est le devoir de la France de vraiment respecter ses engagements et d'être une voix en faveur des défenseurs des droits humains qui pacifiquement cherchent à les défendre.
Merci Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty France. À l'étranger, le Burkina Faso vote demain pour élire à la fois son président, mais aussi les 127 députés de l'Assemblée nationale. Cette année, près de 7 800 000 électeurs sont appelés à voter, 2 millions de plus qu'il y a 5 ans. Mais un scrutin sous la menace djihadiste et les candidats à la présidentielle ont tenu hier leur dernier meeting avec une sécurité renforcée. Les électeurs burkinabés ont le choix entre le président Kaboré, donné favori, et 12 candidats d'opposition, dont Eddy Kambouéré, candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, dont le régime fait l'objet d'une nostalgie croissante et dont les partisans demandent son retour. Reportage Nathanaël Charbonnier.
Il n'aura fallu que 6 ans pour que la nostalgie s'installe, celle des partisans du président déchu, Blaise Compaoré. Et c'est le candidat Eddy Kambouéré du CDP, le parti de l'ancien homme fort du pays, qui promet son retour au nom de la réconciliation nationale.
Je ferai la réconciliation. J'amènerai le président Blaise Compaoré.
Et la promesse va droit au cœur des milliers de partisans présents pour l'un des derniers meetings avant l'élection de dimanche.
Moi, je vote pour Eddy Kambouéré.
Et cette femme de poursuivre en langue morée en expliquant que oui, dimanche prochain, elle va voter en mettant son empreinte sur le visage du candidat qui soutient l'ancien président. Parce que lui seul est capable de résoudre ses problèmes, ceux de ses enfants et de son mari qui souffre depuis 5 ans. Le retour de Blaise Compaoré, une évidence également pour ce jeune garçon qui voit dans l'ancien dirigeant un sage dont le Burkina a besoin.
Quand vous avez un ancien président, vous devrez vous inspirer de sa connaissance. On ne doit pas exiler un ancien président.
Et ce retour de Blaise Compaoré pourrait intervenir plus rapidement que prévu, puisque la plupart des partis d'opposition y sont tout simplement favorables. À Ouagadougou, Éric Audrin, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Et pour terminer ce journal, la prescription culture pour ce week-end avec The Mad Lovers, c'est le titre d'un album qui renouvelle le répertoire baroque. Deux jeunes musiciens français, Théotime Langlois de Swart et Thomas Dunford au luth, sont allés puiser chez des compositeurs anglais du XVIIe siècle des œuvres rarement jouées et cela donne, Stéphane Capron, un album d'une grande modernité.
première note de la pièce de John Eccles qui donne son nom à l'album, on est emporté par la mélancolie du thème qui a été composé pour une comédie théâtrale très populaire à Londres, The Mad Lover de John Fletcher, jeune contemporain de Shakespeare. Théotime Langlois de Swartz est passionné pour cette époque et de fil en aiguille, il a découvert une sacrée société de musiciens.
C'est comme un réseau de compositeurs à l'époque qui se connaissaient tous plus ou moins, qui écrivaient tous de la musique pour violon. Et en fait, c'est aussi une histoire de famille parce que donc il y a les frères Eccles, il y a Nicolas Matisse, père et fils, et il y a aussi Daniel Purcell et Henry Purcell. Donc Henry Purcell, c'est vraiment le compositeur le plus connu qu'il y a sur ce disque, mais il est là que pour 30 secondes. Et je trouve qu'il y a une manière de composer de la musique qui est complètement directe. Le sentiment, on l'exprime de manière frontale, c'est sans embâge. On dit ce qu'on pense, on joue comme on ressent.
Il y a de vraies pépites sur cet album, comme cette fantasia en la mineur du jeune Nicolas Matéis. Un mélange de romantisme et d'envoûtement, une pièce très moderne à la sonorité éclatante. Théotime Langlois de Swart fait des merveilles avec son violon Steiner du 17e.
The Mad Lover de Théotime Langlois de Swart et Thomas Dunford, disponible en version numérique chez Harmonia Mundi. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski.
Une ambiance plus terne aujourd'hui sur les régions septentrionales que dans la moitié sud du pays où cet après-midi toutes les grisailles auront disparu pour faire place au soleil, mais avec du vent fort à 100 km à l'heure sur les Caps Corses. Du Val-de-Loire au bassin parisien et sur Champagne-Ardenne, le ciel plus ou moins voilé n'empêchera pas l'impression de beau temps. Par contre, plus près de la Manche, le ciel sera beaucoup plus chargé, avec du vent à 60 km à l'heure sur les côtes et parfois un peu de bruine. Les températures de l'après-midi vont afficher 6 à 9 degrés le long des frontières de l'Est, pratiquement le double autour de la Méditerranée, en passant par 11 sur la Touraine, le Nord et l'Île-de-France, 12 du Pays Rennais aux Charentes et 13 sur le Limousin et dans le Sud-Ouest. Demain, après les brouillards, à nouveau du soleil dans la moitié sud. Au nord de la Loire, plus de nuages, notamment près de la Manche, ponctués de pluies plus marquées l'après-midi sur l'Artois et les Flandres.
Jean-Michel Golinski de Météo France.